Et qu'est-ce que tu fais ? Il y a de la peinture partout.
Viens voir ma création. Je peins la beauté de ton visage.
Montre ? Ah ouais, mais plutôt la GT du local.
Vous avez déjà eu ça, votre cœur qui bat soudain un peu plus vite et vous n'y pouvez rien ou pas grand-chose. Ça se passe parfois avec les yeux de quelqu'un ou avec un geste doux et consenti. Ou encore avec un discours politique dans lequel vous vous sentez soudain considéré. Vous voyez ce battement un peu plus fort, un peu plus vite dans la poitrine, vous le ressentirez demain, c'est certain, et ça se passera encore ailleurs, précisément au 6x4, parce que c'est sur cette scène que se produira le groupe Glauc. D'ailleurs, notre invité d'aujourd'hui est Louis Lemage, chanteur du groupe, et il sera au micro de Lucie. D'ailleurs, Lucie, bonjour à toi.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, amis auditeuristes, vous écoutez l'AJT du local. Dans la suite de cette émission, on écoute le reportage Pensée locale de la semaine, et aujourd'hui, il nous emmène à Nantes à la rencontre d'un organiste et d'un professeur d'orgue.
Bonjour Louis Lemage, merci d'être avec nous sur l'autre radio. Vous êtes le chanteur du groupe Glauc, aux côtés de Adrian Montens, Baptiste Lomonto et Lucas Lemage, votre frère. Et pour essayer de décrire votre musique à nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, vous mélangez à la fois électro et hip-hop, on peut même y trouver des influences rock, et surtout vous rappez, enfin vous faites du spoken word pour être plus précise. Là vous êtes en tournée et vous présentez notamment votre nouvel album « Les gens passent, le temps reste » qui est sorti en septembre 2023. Et donc pour commencer, je le disais, vous êtes la voix du groupe et vous rappez. C'est assez rare de parler d'un groupe quand on parle de rap en fait.
Ouais, c'est vrai. Et ça a été une volonté en fait, quasi depuis le début du groupe. On a commencé à deux avec Adrian, du coup, et on avait la volonté de ne pas avoir la formule avec juste un DJ derrière et moi devant au micro. Et on voulait avoir des vrais musiciens et jouer vraiment les morceaux sur scène. Donc c'est comme ça que Lucas et Baptiste nous ont rejoints. Et assez vite, en fait, en travaillant sur le premier concert et du coup sur le live, on a de plus en plus travaillé sur les morceaux ensemble. Et ça s'est mis assez naturellement de faire un groupe.
Et donc la volonté de groupe est restée du coup. Justement, en parlant des lives, est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ?
On aime ça parce qu'on a commencé par ça et que c'est une expérience totalement différente que d'enregistrer des morceaux, que ce soit en studio ou tout seul chez soi. Là, c'est rencontrer les gens, avoir une ambiance qui est totalement différente. Je pense qu'on est tous assez fans de ça.
Est-ce que c'est ça qui vous inspire et qui participe à la création de vos morceaux plus tard ?
Au début du projet, ça a été ça. On a eu la chance de faire beaucoup de concerts sans sortir de morceaux. C'est vraiment avec le premier album qu'on a sorti qu'on s'est mis à travailler sur des morceaux uniquement pour les sortir sur CD et qu'on n'a pas pensé au live en priorité. Mais pendant tout un temps, oui, la grosse motivation, c'était là, ce soir, on joue 20 minutes, la fois d'après, on joue 30 minutes, donc il nous faut des morceaux en plus. Et du coup, on composait vraiment pour le live.
Pour revenir sur un détail qui n'en est peut-être pas un, le nom de votre groupe, je le disais, c'est Glauc. On doit souvent vous faire la remarque parce que c'est assez original, mais en fait, vous expliquez que c'est aussi une couleur, un vert qui tire vers le bleu, comme la mer avant la tempête. Du coup, il y a un double sens qui est très fort dans ce choix. Comment est-ce que vous est venue cette idée ?
C'était avant notre tout premier concert et on n'avait pas de nom de groupe. Et on n'avait pas le choix d'en trouver un, du coup. C'était la veille ou l'avant-veille. Et du coup, on réfléchissait et mon frère a juste dit « Tiens, j'ai reçu un livre à Noël sur les différentes teintes de couleurs. Vous saviez que Glauc, c'était une couleur à la base. » On a dit « Ah non, c'est marrant. » Et ça s'est décidé comme ça. En fait, c'était pas plus réfléchi que ça. On trouvait ça effectivement chouette, le double sens. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement. Et oui, on trouvait que ça se retenait bien et facilement. Donc on l'a gardé.
Est-ce qu'avec le recul, vous trouvez que ça vous va bien, finalement ?
On n'a pas fait de musique en fonction du nom qu'on avait. Je pense que l'avantage de ce nom, c'est que finalement, c'est un double sens qui est du coup avec deux sens extrêmement opposés en plus. Et du coup, ça va assez bien à notre musique ou qui est faite de beaucoup de contrastes, de paradoxes. Au final, ouais, on est très satisfait du choix.
Et donc, je le disais, vous êtes le chanteur, mais du coup, pour les trois autres musiciens, donc Adrian Montens, Baptiste Lomonto et Lucas Lemage, est-ce que chacun a un rôle spécifique ?
De formation, ils sont tous pianistes à la base, mais ils ont tous eu plusieurs projets quand ils étaient adolescents de rock, donc où ils ont un peu joué de tout. Donc au final, tout le monde est plus ou moins multi-instrumentiste dans le groupe.
Tout le monde est un peu touche-à-tout finalement.
Ouais.
Et en parlant de touche à tout, j'ai pu visionner certains de vos clips et j'ai notamment vu que dans le clip de votre titre « Rance », il y a en fait un hommage à la performance d'un artiste qui s'appelle Denis Oppenheim, qui avait performé au musée Georges Pompidou. Et ce qui me fait me dire que dans vos productions, on peut ressentir une grosse influence des autres formes artistiques. Est-ce que c'est important pour vous ce lien justement avec les autres formes artistiques ?
Oui, surtout les autres membres du groupe. Moi, je dois avouer que je m'occupe très peu de la partie visuelle. C'est quelque chose qui m'inspire moins et avec lequel je suis moins à l'aise de base. Mais Baptiste, qui a réalisé la plupart de nos derniers clips dans le groupe, lui, c'est quelque chose qui lui tient fort à cœur. Les autres membres du groupe aussi. Donc, c'est des choses sur lesquelles ils essayent de garder le maximum de contrôle et de bosser le plus possible en étant totalement autodidacte là-dedans, quoi.
Et vous parliez de contraste tout à l'heure. Vous avez un style qui est très marqué et très riche. Est-ce que c'est facile de se faire connaître du grand public, du coup ? Je pense notamment au format ou au texte et aux thèmes qui sont très, très assumés.
Je ne crois pas, mais comme on ne l'a jamais pensé comme tel, ça nous a jamais, comme ça n'a jamais été une volonté, ça ne nous a jamais dérangé ni frustré non plus. Au-delà des sujets ou de la musique en tant que telle, c'est sûr que même en termes de format de morceaux qu'on fait, on ne se limite jamais à dire « tiens, il faut absolument un refrain » ou « il faut respecter telle structure ». On essaye, et je pense qu'on y arrive assez bien, à rester assez libre dans ce processus créatif sans se rattacher à une quelconque attente potentielle d'un public. Donc effectivement, je pense que c'est pas... Si on avait voulu faire quelque chose qui marchait à 100%, je pense qu'on ne ferait pas la musique contre, ça c'est sûr.
Et pour votre album, un des fils rouges est le sujet du deuil. Est-ce que c'est venu petit à petit ou est-ce que c'était déjà présent dès le début du projet ?
C'est un peu des deux, dans le sens où le sujet est vite venu sur la table, en se disant que c'était quelque chose dont on aurait bien aimé parler. Et après, on a fait des morceaux assez naturellement, sans vraiment réfléchir à ça. Et il se faisait en fait, pour cet album, on a dû faire une soixantaine de maquettes. Il se faisait qu'après, quand on a choisi les morceaux qu'on aimait le plus et qu'on a voulu construire quelque chose de cohérent, ça s'est mis autour de ça. Donc, il y a un peu des deux, dans le sens où on s'est fait la réflexion avant de faire l'album. Mais qu'on ne s'est jamais forcé à maintenir ce cap-là, il s'est mis un peu naturellement.
D'ailleurs, j'ai dit le deuil, mais en fait, c'est les deuils au pluriel qui prennent des formes très différentes. On en vit beaucoup, selon vous ?
Oui, je pense que c'est une phase dans la vie qu'on traverse à plein d'autres moments que simplement le décès de quelqu'un. C'est sûr, ce ne sont pas les mêmes formes de deuil, mais je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Et surtout, au-delà d'être universel, l'élément qui le déclenche, en fait, peu importe, c'est plus les émotions et les faces qui en découlent qui sont faciles à raccrocher à sa vie.
Et alors, comment est-ce que ça se passe, le processus d'écriture au sein de votre groupe, finalement ?
La plupart du temps, ils m'envoient une boucle de musique qu'ils ont faite, et moi, j'écris dessus, mais on ne se dit jamais à l'avance. Il n'y a aucun morceau qu'on a fait en se disant « tiens, ce serait bien qu'on fasse un morceau sur ça ». Ça s'est toujours fait naturellement, et on se laisse un peu aller là-dessus. Même si c'est arrivé que j'ai des phrases ou des couplets écrits de côté, que je renvoie et qu'ils me renvoient par-dessus de la musique. Généralement, c'est quand même toujours chacun dans son coin et on se fait des boucles de mails et on se répond comme ça.
Et vous avez des influences musicales très différentes en tant que groupe. D'ailleurs, chaque membre a des références bien à lui. Est-ce que c'est enrichissant, cette multiplicité, ou bien est-ce que ça a été une source de compromis parfois ?
Maintenant, ça se complète plus qu'au tout début. Ça a été très long pour trouver un équilibre. Mais maintenant, c'est plus... j'ai l'impression qu'on a réussi à... Que le style de musique, d'ailleurs, qu'on fait découle de ça, du fait qu'on a des goûts très différents, d'avoir réussi à faire de la musique qu'on apprécie tous, sachant qu'on a tous un droit de veto. Donc, en fait, tout ce qu'on garde, c'est globalement ce qu'on aime tous. On ne fait pas trop d'échanges de morceaux dans le sens où on pourrait se dire « Tiens, moi, celui-là, j'aime bien. Ok, mais alors, on me sort celui-là aussi. » Ça, on ne fait pas trop. C'est vraiment... juste ce qu'on aime tous finit par sortir, en sachant qu'on fait des trucs qui plaisent à deux personnes sur quatre dans le groupe ou à une personne parfois. Donc on essaye de garder que tout le monde est tous d'accord.
Et vous êtes de plus en plus connu et j'ai l'impression que vous avez été pas mal mis en lumière l'année dernière notamment. Et surtout, j'ai vu que vous avez aussi un public allemand. J'avoue que ça m'a pas mal surprise. Est-ce que vous aussi, ça vous a surpris ?
Oui, c'est quelque chose qui nous a pas mal surpris. Je pense que la première fois qu'on est allé jouer là-bas, c'était en 2021. Et on a senti directement qu'il y avait un truc qui se passait avec le public là-bas qui même se produisait pas dans la francophonie. Et on a eu la chance de pas mal jouer là-bas depuis. Et que ça marche assez bien. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous a fort surpris au début. En plus, les gens qui viennent nous voir sont pas du tout francophones. Donc c'est vraiment des gens qui ils comprennent rien en fait à ce qu'on raconte dans l'absolu, ouais. Mais je pense qu'il y a une telle culture de la musique électro en Allemagne que je suppose que les gens y retrouvent leur compte là-bas, et on doit dire que c'est assez chouette d'avoir cette chance-là de pouvoir aller jouer en Allemagne.
Oui, j'allais le dire, on entend des prods très riches avec des sons très travaillés, et ça doit certainement plaire au public allemand. Pour finir, avant de se quitter, est-ce que dans vos prochains projets, il y aura d'autres sujets que vous pensez déjà aborder ?
Ben, je pense qu'il y a plein de choses dans l'absolu. Ça pourrait être en fait à peu près tout et rien à partir du moment où on estime qu'on a des choses à raconter dessus. On n'a pas de volonté spécifique jusqu'ici, peut-être que ça va nous tomber dessus un de ces quatre. Mais tout comme pour le premier album, je disais, on avait fait une soixantaine de morceaux et dans des styles très différents et avec des sujets très différents. Peut-être qu'il y a une partie de ces morceaux qui vont nous servir de base pour reconstruire autre chose, mais on ne se met pas de thème précis ou de volonté précise sur la suite.
Eh bien, on va se quitter là. Merci beaucoup, Louis Lemesch, d'avoir été avec nous sur l'autre radio. Nous, on va pouvoir venir vous écouter demain, vendredi 9 février, au 6x4 à Laval, où, pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, on peut tout à fait découvrir votre album « Les gens passent, le temps reste ». Merci encore d'avoir été avec nous. Et alors, chers amis auditeurs, si vous n'avez pas encore vos places pour demain, il en reste. Et en attendant, on se fait plaisir, on découvre un morceau de leur dernier album, Les gens passent, le temps reste. C'est difficile de choisir, pour être honnête avec vous, parce que moi je les aime tous. Mais j'ai fini par opter pour celui-ci, on écoute Plan large de Glouc.
Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint. Perdu comme un moment, l'état, j'en suis un. Boire des verres de Pardieu comme Gérard Depardieu dans des verres en étain. Boire des cafés noirs, broyer du noir, verser la mare dans le siphon en étain. Pisser dans la mare, se cacher dans l'armoire, tomber du perchoir, les films ont éteint. Bavard sur la forme, avare sur le fond, les gens font des leçons, les films ont éteint. Les gens sont des cons, oublient que convaincre, c'est vaincre les cons, se battre contre rien. Se battre pour tout, défendre le bon, fidèle jusqu'au bout, un bon petit chien, prêcher pour le bien, lire sa partition, les écrits bidons, les films ont éteint. Les hommes jouent au prince, sans exception, manipulation, les films ont éteint, les filles sont des temples, les hommes sont des saints, les filles ont des seins, les filles sur des cintres, les filles sur des filles qui défilent dans nos vies, des fissures dans le vide qui remplit le trop-plein, des produits qui se consomment et puis un jour périm, signé par intérim, pensée futur terrain, pensée propriétaire, pensée à la manière de pas être propre en partant, pensée sexe gagnant, pensée amour perdant. Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint. Perdu comme un moment, l'état, j'en suis un. Boire des verres de Pardieu comme Gérard Depardieu dans des verres en étain. Les hommes de valeur, plus aucune valeur. Le blanc du leurre, les films ont éteint. À l'intérieur, le noir du cygne. Jouer au simple, les films ont éteint. Frôler les cimes, traverser les ombres. Le long des cernes, les films ont éteint. Rêve d'un mauvais songe, rêve d'un passé sombre. Jouer au singe, les films ont éteint. Le cœur d'une veuve, brûlé à vif. Y croire sans preuve, les films ont éteint. Y croire sans preuve, non plus jamais. Jeûner hargneux, les films ont éteint. Jaune et mauvais, rire de façade. Nouveau départ, même arrivé. Rite de passage, rite de bâtard. Rite du lion, déjà fatigué. Les arrivistes veulent plus rien faire, que des branleurs, juste profiter. Que des brailleurs, l'essentiel est ailleurs. Des religieux païens, des féministes violeurs. Aseptiser le violent, puis jouer du violon. Les apparences vaillantes et leurs mauvaises odeurs. Vérité défaillante que les films ont dépeintes pour nous coincer ici dans le même rêve d'ailleurs. Quand on sent trop mal, on se complaît, c'est trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Encore un va-et-vient, et puis j'aurai le refrain.
Et c'est parti pour l'actu en bref. Aujourd'hui, on va surtout parler du sujet de l'eau. Et oui, je ne me suis pas trompée, on n'est pas sur la météo, les annonces de pluie, c'est pour après. Dans la si je vous en parle, c'est parce que le débat sur le partage de l'eau a été relancé par la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. C'est le journal Presse Océan, puis relayé par Ouest France, qui a révélé un courrier daté du 29 janvier, dans lequel le président de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a demandé au préfet de région de, je cite, « suspendre les travaux locaux sur l'eau ». Allez, retroussez vos manches, on va essayer de comprendre. Les travaux dont il est question sont des travaux qui s'appuient sur les études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, dans le bassin de la Loire. Ces fameuses études servent à évaluer quel niveau d'eau on peut prélever dans les rivières ou les nappes, tout en ayant l'impact le plus faible possible sur la faune sauvage. Là du coup, François Beaupère, le président de la Chambre régionale d'agriculture, mais aussi agriculteur et militant de la FNSEA selon Ouest France, dit que ces fameuses études mèneraient toutes, je cite, « vers une baisse de 10% des prélèvements à minima, y compris pour les usages agricoles ». Et c'est là que ça coince du coup, il demande donc, je cite à nouveau, « une pause, le temps de réévaluer les résultats et la méthode ». Ce qui inquiète François Beaupère, c'est entre autres les situations de sécheresse et les restrictions qu'il estime lourdes, qui pourraient mettre en danger les cultures, voire les fermes selon lui. A noter que dans son article, le journal Presse Océan commence d'ailleurs par, à nouveau je cite, « afin d'apaiser la colère des agriculteurs et plus particulièrement celle de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, les deux syndicats majoritaires, le gouvernement a cédé sur différents volets touchant aux règles environnementales ». Fin de citation. En ce qui concerne la position de l'opposition à gauche, le Printemps des Pays de la Loire, par exemple l'EPS, PCF, etc., a communiqué sa position à ce propos. Le Ouest France rapporte que, selon eux, la suspension des études représenterait, je cite, « un danger pour l'agriculture mais également pour l'alimentation en eau potable de la population ». Sont dénoncés le silence de Christelle Morancet, présidente des Pays de la Loire, et Dominique Degnaud, conseiller régional éleveur et ex-cadre de la Confédération Paysanne, précise toujours dans les colonnes du Ouest France que, à nouveau je cite, « si on n'a pas de base commune sur les ressources disponibles, le jour où il y aura des arbitrages sur le partage de l'eau, ça peut taper très fort sur les prélèvements ». Fin de citation. Allez, vu qu'on a assez parlé pour ces brèves, je vais terminer sur un sujet un peu plus court. Je vais juste conclure par le résultat du match d'hier entre notre Angola Valois et le Puy-en-Velay. Il s'est soldé par une très décevante défaite avec un 2-1 pour le Puy, ce qui nous élimine donc en 8e de la Coupe de France. Je vous parlais d'eau pendant les brèves, et bien Colline, ce n'est pas cet après-midi qu'elle va se demander comment arroser son jardin. Et oui, on continue sur la si belle lancée avec des rares averses ou des pluies éparses sur tout le département, avec des 11-12 degrés toute la journée et jusqu'à la nuit. Le vent continue de bien souffler de son côté, on aura des rafales jusqu'à 65 voire 70 km/h, et même jusqu'à 80 km/h à Saint-Aignan-sur-Rouet cette nuit, ou 75 km/h à Lehors. Et pour demain, le vent continue sur sa lancée pendant la journée avec des rafales à 50-55 km/h, voire 60 km/h dans le nord du département. Mais ça va, la soufflerie se calme la nuit. On se dit qu'avec ça, ça devrait chasser les nuages, mais non, malheureusement, ils sont persistants, les bougres. Alors demain, rebelote, très nuageux partout sur le territoire avec des 10 ou 11 degrés le matin et pluies et rares averses l'après-midi avec des 12 ou 13 degrés. Et ça continue comme ça jusqu'à la nuit en descendant doucement à 10 degrés.
En France, 10 000 orgues sont référencées, dont 448 en Pays de la Loire, d'après le ministère de la Culture. L'orgue est un instrument mobile par définition parce qu'il est construit sur mesure pour le lieu dans lequel il sera installé. Dans le reportage Pensée locale de la semaine, on découvre que la région nantaise est riche d'une histoire particulière avec cet instrument. Vincent Podo d'Alternance FM est allé à la rencontre de Stéphane Robert, gérant de la Manufacture de Nantes, et de Michel Boursier, organiste et professeur d'orgue au Conservatoire de Nantes. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
10 000 orgues sont référencées en France, dont 448 en Pays de la Loire, d'après le ministère de la Culture. L'orgue est un instrument mobile par définition, construit sur mesure pour un lieu. Pour autant, la région nantaise est riche d'une histoire particulière à cet instrument. Et nous commençons par une manufacture d'orgue dont nous allons rencontrer le dirigeant dans son atelier situé à la Chapelle-sur-Erdre.
C'est un atelier comme beaucoup d'ateliers, hein, mais avec une spécificité, c'est qu'on a très haut sous plafond pour pouvoir monter des instruments plus importants. On a jusqu'à 11,50 m. Hauteur. Monsieur Robert, Stéphane, gérant de la manufacture d'orgue depuis 2000. Elle a été créée en 2000 et moi j'ai débuté dans le métier en 1984.
On dit que Nantes est un lieu renommé pour ses factures d'orgue.
Oui, je dirais, c'est presque un nid finalement, parce qu'en fait, il y avait une grosse manufacture d'orgue à Nantes qui s'appelait la Maison de Bière, qui après s'est appelée la Maison Beuchet. Elle a employé jusqu'à une cinquantaine de personnes à une époque. Certains sont partis à leur compte, parce que cette maison n'existe plus maintenant, elle a cessé d'exister en 79. Il y a eu après la Maison Renault qui était assez nombreuse, et on est tous partis aussi plus ou moins à notre compte quand elle a fermé ses portes. Donc c'est pour ça qu'on est quand même une concentration de facteurs d'orgue qu'on appelle l'école de l'Ouest d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que sinon pour retrouver une telle concentration là par contre faut aller en Alsace et dans l'Est de la France.
Et est-ce qu'il vous arrive de faire des instruments pour l'étranger par exemple?
D'en restaurer, oui, j'en ai encore pas fait de neuf pour l'étranger, mais restaurer à l'étranger, oui, oui, oui. En Espagne, au Portugal.
Il y a une différence entre la restauration et la conception-construction?
La restauration, c'est presque reposant, on n'a pas à réfléchir, il faut restaurer ce qu'on a devant les yeux. Reconstruire, des fois, c'est quand même un peu plus sévère comme punition, parce que là, il faut essayer de retrouver ce qui n'existe plus et d'être sûr d'être au plus proche de ce qui a pu exister. La restauration, c'est captivant, parce qu'on redonne vie à un instrument qui était complètement à bout de souffle, on ressuscite.
Il y a eu cette fameux triste incendie à Nantes, à la cathédrale de Nantes. Qu'est-ce que ça vous fait quand un instrument comme ça part en fumée?
Ah ben c'est désastreux. C'est désastreux parce qu'on se dit qu'on ne pourra jamais refaire le même. Il était magnifique. En plus, il avait, je parle pour le grand orgue. Hein, l'orgue de chœur, lui, il a été sauvé quand même, à part la console qu'on doit refaire à neuf. Le grand orgue, tout a disparu. Là, c'est vraiment. C'est terrifiant de voir ça parce qu'on se dit qu'on ne le reverra plus. Quoi. En refaire un exactement en copie, je ne sais pas ce qui sera choisi comme option. Mais de toute façon, celui qui est parti, c'est une œuvre d'art qui a brûlé. Voilà.
Réécoutons l'orgue de la cathédrale de Nantes. Enregistré en 1994 par Alternante. Michel Boursier, organiste.
Je suis l'un des titulaires du grand orgue de la cathédrale de Nantes, qui, comme vous le savez peut-être, a disparu dans les flammes il y a quelques mois. Et j'enseigne l'orgue au conservatoire de Nantes. Donc en fait, je suis professeur d'orgue. Alors, être titulaire, c'est être au service d'une paroisse ou d'une cathédrale, soit bénévolement, soit de manière salariée. Et on assure l'accompagnement musical des offices. Et en même temps, on s'occupe également de l'instrument que l'on joue pour ces offices. On peut dire qu'on en est le responsable. Voilà. Alors par définition, un orgue est destiné à un lieu, est immobile. Il a été construit par le facteur d'orgue, c'est-à-dire le constructeur, pour être dans un lieu. Il a été adapté, paramétré, on pourrait dire, pour ce lieu et n'est pas destiné à en bouger. D'ailleurs, la définition juridique d'un orgue, c'est un meuble immeuble par destination. Je pense que l'orgue, a priori, est le seul instrument qui est vraiment destiné à être lié à un lieu.
Mes remerciements à Michel Sourget pour ses archives. C'était un reportage de Vincent Podo pour Alternante FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Vous êtes bien sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On ne termine pas une agitée du local si rapidement. Il y a des manières plus délicates de se dire au revoir. Et délicat n'est pas un mot choisi par hasard, puisqu'on écoute Sunflower de Tamino et Angèle.
sunflower blooms, reaching into the clouds. Ever young and ever growing, defying the hardest winds blowing. Time and again I've drawn her, ever since she was a golden-haired girl. Take her now by devotion, I still hear her sing by the ocean. Oh baby, don't you notice me? Notice me. So ready to lose everything, everything for your
L'agité du local s'arrête ici. Merci à Louis Lemage d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, Lucie. On continue entre cinéma et littérature aujourd'hui.
Et bien, on commence la soirée devant le grand écran avec Le Masque et la tronçonneuse. On parle pellicule, gamma GT et d'alcool au cinéma.
Ensuite, à 21h, le cinéma toujours, et même plutôt la bande originale de film.
Exactement, on écoutera Quand la musique est bof.
Et bien, je vous souhaite un très bon jeudi sur les ondes de l'autre radio. On se retrouve demain pour la dernière agité de la semaine. Et comme chaque vendredi, c'est le grand entretien. Nous accueillerons des membres de la communauté Emmaüs de Villiers-Charlemagne à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Je vous dis à demain et d'ici là, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.